son règne. Merci, Père. À toi la gloire, Jésus. Amen. Merci, Seigneur, pour ta victoire aujourd'hui. Bénissons son nom. Amen. Gloire à Dieu, ça fait du bien d'être ensemble dans la présence de Dieu. Oui, si ce n'est pas le cas, vous pouvez dire à votre voisin, tu as bien fait de venir ce matin, parce qu'il y a un rendez-vous de Dieu pour toi. Amen. Merci Père. Gloire à ton nom. On aura l'occasion de continuer la louange, on va avoir un temps de jeûne et prière, comme vous le savez, on peut aussi lancer le PowerPoint. Voilà, c'est vraiment une force d'être ensemble. On peut très bien rester chez soi, mais ce n'est pas la même chose. Et ce matin, à cœur de continuer, vous savez qu'on va avoir ce temps de jeûne et prière à midi. On va également avoir des temps de jeûne et prière toute la semaine, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, le matin, le midi. Et on va se tenir ensemble. Et vous savez qu'il y a eu en tout cas quelque chose d'important cette semaine. Vous êtes au courant? Moi, je ne l'étais pas avant, mais en regardant les infos, eh bien, j'ai vu que mardi, c'était mardi dernier, vous voyez, c'est la Constitution fédérale qui fête ses 175 ans. C'est le texte fondateur de la Suisse moderne qui a été rédigé en 1848. Et donc le document, je crois que c'est la première fois que ce document est ressorti, donc notamment au Parlement. Et c'est vraiment un temps qui est important. Ce qui est également intéressant, mais ça, tout ça, vous savez bien, dans la Constitution fédérale, on trouve le départ, l'introduction, au nom de Dieu Tout-Puissant. Et puis, il fait référence aussi au pacte fédéral de 1291, plus ancien, mais on retrouve également l'introduction dans ce pacte au nom du Seigneur, et là il y a Amen. Il y avait Amen qui est plus dans la nouvelle constitution, mais Amen, qu'il en soit ainsi. Que ce pays sur lequel nos pères, vos pères ont fondé ce pays, que ce soit un acte. Et le préliminaire, le départ, c'est de dire, ok, on va être ensemble avec les trois premiers cantons, mais c'est bien de se rappeler que nos pères, ceux qui nous ont précédés, ont été des veilleurs, ont été des personnes qui ont reconnu qu'il était important de construire, de bâtir une société, de bâtir des relations, d'être dans l'entreprise, l'éducation, etc., etc. Mais la source, le départ, c'est sur quoi je vais construire la société, sur quoi je vais construire ma vie, sur quoi je vais construire la famille, sur quel fondement. Et j'ai trouvé intéressant que dans ce temps de jeûne fédéral, eh bien, il y a cette belle image que vous pouvez trouver sur les sites de prière pour la Suisse, beaucoup d'associations qui coordonnent un petit peu tout ça. Et juste rappeler que l'arc-en-ciel, c'est un des signes de l'alliance que Dieu a faite avec l'homme. Et ce matin, c'est mon sujet. Je voudrais nous rappeler, ça résonne un peu, je ne sais pas si c'est... Je voudrais nous rappeler ce que Jésus a dit, et c'est un texte que j'ai eu à cœur pour ce matin, et qui va également aussi nous encourager à être qui nous sommes en Christ, c'est-à-dire des veilleurs à l'instar, à l'image de ceux qui nous ont précédés. À ceux qui nous ont précédés, qui ont fait vraiment alliance avec Dieu, et bien que nous-mêmes, on puisse quelque part perpétuer cette position pour que les prochaines générations puissent également vivre cette bénédiction en Dieu. Je vous invite à prendre dans Matthieu au chapitre 26 et puis au verset, plus particulièrement ce matin, on va parler des versets 36 plutôt à 56. Matthieu 26, il est dit là-dessus, Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémané. Il dit à ses disciples, asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit. Alors il leur dit, Je suis accablé de tristesse à en mourir. Restez ici et veillez avec moi. » Je crois que c'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. Restez ici. Ne partez pas, jeûnons ensemble. Non, restez ici. Ça veut dire restez dans la présence du roi des rois, du Seigneur des seigneurs, et veillez avec moi. Au verset 39, « Puis il avança de quelques pas, se jeta le visage contre terre et fit cette prière. Mon Père, si cela... » Je passe la slide. « Mon Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Est-ce qu'on peut le dire ensemble ? Mon Père, on peut répéter ce verset ensemble ? « Mon Père, si cela est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Amen. Il revint vers les disciples qu'il trouva endormis. Il dit à Pierre, « Vous n'avez donc pas pu rester éveillé une seule heure avec moi. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé par nature, l'homme est faible. » Il va s'éloigner une deuxième fois, fit cette prière. « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva endormis, encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Il les quitta, s'éloigna de nouveau et pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il revint vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant, vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. » Il parlait encore quand Judas, l'un des douze, arriva avec une foule nombreuse armée d'épées et de bâtons. Ici, nous avons dans ce texte l'épisode que, pour la plupart, vous connaissez bien, ce qu'on appelle l'épisode du jardin de Gethsémané. Au préalable, quand on lit Matthieu chapitre 26, lorsqu'on lit Marc 14, Luc 22, Jean 18, vous avez une image un peu plus large de ce qui s'est passé à ce moment-là. Et ce qui précède cela, c'est le repas de la Pâque. Jésus sait, on est vendredi, donc c'est véritablement le moment qui précède son arrestation, qui va précéder la croix et qui ensuite va précéder la résurrection. Et là, on a une série d'épisodes pour les disciples. Ça va être extrêmement compliqué pour eux, inévitablement pour Jésus aussi. Ils vont prendre la Pâque ensemble, et à ce moment-là, c'est là que Jésus va donner du sens à la Pâque, à la délivrance de la Pâque, et il va, quelque part, instaurer la nouvelle alliance. Mais dans cet épisode-là, lorsque vous relirez les textes, il y a un certain nombre d'éléments qui vont être véritablement troublants pour les disciples. Et ce matin, permettez-moi de ne pas mettre forcément l'accent, bien sûr, sur Jésus qui est essentiel, mais permettez-moi de voir avec vous comment ont vécu les disciples dans ces moments. Il s'agit de quelques heures. Comment les disciples ont-ils géré ce temps de crise ? Comment ont-ils géré ce temps, comme dira Jésus dans Luc 22, il dit « C'est maintenant le temps des ténèbres. C'est le temps des ténèbres. » Pourquoi dit-il cela ? Parce que lorsque ils vont partir, ils vont partir de ce repas et ils vont aller à Gethsémané, c'est le Mont des Oliviers. Mont des Oliviers, c'est la partie ouest, donc c'est le grand Jérusalem. C'est assez court pour aller, ils discutent ensemble. C'est un endroit qui est habituel pour eux, je dirais c'est le lieu de leur réunion de prière habituelle, parce qu'on sait que Judas, lorsqu'il les trahit, ils savent où ils sont. Et puis, dans ces évangiles-là, il nous est dit que, comme d'habitude, ils vont aller là-bas. Donc c'est finalement... ils prennent la Sainte-Cène ensemble, la première, et ils vont partir et ils vont discuter avec Jésus. Ce que Jésus va leur dire va profondément les troubler. Est-ce que quelquefois, en tant que chrétiens, nous ne sommes pas troublés par ce que l'on vit ? Pas seulement par rapport à ce qui se passe dans le monde, Mais ne sommes-nous pas troublés quelquefois par rapport à ce qu'on vit dans notre famille, dans ce que l'on peut vivre à l'église, dans ce que l'on peut vivre personnellement par rapport à Dieu? Peut-être y a-t-il des questions qui sont sans réponse. Peut-être qu'il y a des nouvelles qui nous ont attristés. Peut-être que intérieurement, on ne se sent pas bien. Et c'est exactement le cas des disciples qui sont avec Jésus. Parce que Jésus va leur annoncer, il va leur annoncer à l'avance des nouvelles qui sont très troublantes. La première, lorsqu'ils vont prendre cette Sainte Cène, par définition, la Sainte Cène, c'est le lieu de la communion, c'est le lieu de la communion entre nous, la communion avec Dieu. Et Jésus dira, voici, il y en a un d'entre vous qui va me trahir. Waouh, ok. Il va leur annoncer également, et c'est mon point, c'est le sujet de mon partage ce matin, c'est de me dire, mais aussi, que s'est-il passé entre le verset 36 de Matthieu 26 et le verset 56 ? Il va leur annoncer que le berger va être frappé et qu'ils vont être dispersés. Ça fait 3 ans qu'ils sont avec Jésus. Ça fait plus de 3 ans. Ça fait, ils sont avec lui. Il y a cette affection plus que cela. Ils ont vu des choses extraordinaires. Ce n'est pas des débutants. Donc ça veut dire qu'ils sont depuis longtemps avec Jésus. Et Jésus va leur dire, voilà, c'est le temps des ténèbres. C'est le temps compliqué. C'est le temps où le diable vous a réclamé pour vous cribler, pour vous secouer, pour vous mettre la tête à l'envers. Et il leur dira, il dit clairement au verset, à partir du verset aussi 31, 32, 33, il dit, mais vous allez être dispersés. À ce moment-là, inévitablement, ils vont réagir d'une manière très naturelle, Pierre le premier, et il dira, mais quand bien même tout le monde t'abandonnera, moi je ne t'abandonnerai pas. Et tout le monde va dire la même chose. Mais au verset 56, ils vont tous l'abandonner. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Et savoir ce qu'il s'est passé pour que nous puissions nous comprendre et comment gérer, comment s'orienter, comment avoir le sens de l'orientation spirituelle quand on est dans de telles circonstances. Et on voit que Jésus lui-même, on sait, hein, je dirais qu'on va plus mettre l'accent sur les disciples, mais ce que va vivre Jésus, c'est quelque chose aussi de terrible, parce qu'il va commencer à prier, et il va prier d'une telle intensité, dans Luc 22, vous pourrez retrouver cela, il va avoir un tel niveau d'angoisse. La Bible me dit et nous dit qu'il va avoir une intensité dans l'angoisse, dans la détresse intérieure. Et c'est la raison pour laquelle il ne veut pas à ce moment-là, Jésus qui est homme, c'est pas un Dieu, il est Dieu bien sûr, mais c'est pas un Dieu qui ne ressent rien, c'est pas quelqu'un qui vient et qui peut tout encaisser. Il est homme, c'est un homme avec ses faiblesses, avec ses limites. Et voilà qu'il est avec ceux qu'il a finalement formés et qu'il a enseignés. Et dans ces moments-là, il a besoin d'avoir le soutien de ses disciples. Il a besoin d'avoir un soutien. Il dira, mais mon âme est triste jusqu'à la mort. Référence au psaume 42 où le psalmiste dira, mais pourquoi t'as battu mon âme? Il y a une détresse intense, il y a une détresse immense. Et à ce moment-là, le psalmiste dira, mais regarde, tourne tes regards vers l'Éternel. Et voilà que Jésus est dans cette détresse. Il est véritablement dans cette détresse. Et il a besoin de ce soutien. Et voilà que dans ce qu'il a annoncé, il dira, vous allez être dispersés. Judas va me trahir, mais on va se retrouver. Il leur dira à l'avance, quand je serai ressuscité, on va se retrouver en Galilée. Donc c'est une autre annonce. Dans le verset tout à l'heure que j'ai cité, lorsqu'il a dit plus précisément pour ceux qui veulent qui prennent des notes, c'est le verset 31. Que s'est-il passé entre le verset 31 et le verset 56 par rapport à la dispersion? Et voilà que Jésus, que se passe-t-il? C'est quelques heures. Hein. On a eu la Sainte Cène, on a Gethsémané. Et vous savez pourquoi c'est terrible dans ce que Jésus vit? Parce que c'est un moment qui est extrêmement, extrêmement stratégique pour l'humanité. C'est ce pourquoi Jésus est venu sur la terre. Il est le seul qui n'ait jamais péché. Il est le seul qui n'ait jamais commis un péché. Il est le seul qui soit capable de nous réconcilier avec le Père. Et voilà qu'il est à la veille vraiment de donner sa vie. Et voilà qu'il va dire au Père, mais si cela était possible, et vous savez pourquoi c'est important de relire ces textes, pourquoi c'est important? Parce que cela va avoir un impact sur notre propre cœur et sur notre compréhension de qui est notre Sauveur. Et ça va nous, quelque part ce matin, on était dans la louange, et des fois on se sent pas en forme, on est, voilà, ça arrive. Et d'un seul coup, je repensais à ce texte que j'ai médité pour ce matin. Et j'ai repensé à notre Seigneur qui va commencer à mesurer la difficulté, l'enjeu. Voilà qu'il y a une confrontation comme jamais avec les ténèbres. Vous savez ce qui s'est passé? C'est que Judas, qui est proche de Jésus, la Bible nous dit que Satan entra dans Judas. Pourquoi? Parce qu'il avait laissé les portes, manque de loyauté, le dieu argent. Il a été pas tellement conséquent pour faire le ménage dans son cœur. Et la Bible me dit que Satan est entré dans Judas. Et Judas, au moment de notre passage, Judas est parti pour aller trahir Jésus. Il a été voir les responsables, il a été voir les religieux. Enfin, ils ont l'occasion de se débarrasser de Jésus. Et alors que Jésus est en train d'intercéder et de dire « Père, si cela était possible », et bien sûr, quand il prie pour la deuxième fois, il dira, mais non, c'est pas possible, il n'y a pas d'autre solution, il n'y a pas d'autre alternative, il n'y a pas d'autre possibilité pour que mes amis qui sont autour de moi, plus toutes les nations, soient réconciliées avec le Père. Il n'y a pas d'autre, il est le seul chemin, il est la vérité, il est la vie. Nul ne vient au Père que par Jésus. Et à ce moment-là, il y a des puissances des ténèbres, parce que lorsqu'il est sur la croix, il ne va pas simplement, entre guillemets, porter les péchés que l'on a pu faire, mais il est en train de porter notre nature pécheresse. Il est en train de porter tout le péché de l'humanité. Il a cloué l'acte qui nous condamnait et il nous a rendus libres. Nous sommes acquittés en Jésus-Christ. Alors c'est vrai que c'est un mystère, mais il est dit aussi qu'en Adam, nous sommes des pécheurs. Pécheurs, ça veut dire quoi? Adam et Ève ont décidé de se rebeller contre l'autorité de Dieu. Et malheureusement pour nous, on en paye encore les conséquences aujourd'hui. C'est juste, c'est pas juste, peu importe, mais c'est la réalité. Et c'est la raison pour laquelle en Adam, nous sommes des pécheurs dans le sens que notre nature est pécheresse. Quand on regarde un enfant, assez rapidement, même s'il est très très mignon, on se rend compte qu'il y a quelquefois des germes de violence, des germes de mensonge, des germes de... Et lorsque je pêche une fois, alors je suis pécheur. Mais en Dieu, en Christ, il a porté cette nature pécheresse. Et nous pouvons être libres, nous pouvons être réconciliés. L'enjeu était exceptionnel. Et l'intensité de Jésus lorsqu'il vit cela, c'est à un tel degré que lorsqu'il prie, un ange vient pour le fortifier. Il y a des grumeaux comme des grumeaux de sang qui coulent. Et quand je relis ce texte, je me dis, mais qu'est-ce que notre Sauveur, Seigneur, a payé ? Pour qu'aujourd'hui on puisse se réunir, pour qu'on puisse le louer, pour qu'on puisse avoir cette espérance de la vie éternelle. Voilà que Satan vient vers lui au travers de Judas. Il va lui faire une bise. C'est extraordinaire. Mais c'est Satan qui vient. Et Jésus vit cette réalité. Et ce que je voudrais partager avec vous, c'est comment et pourquoi ce qu'ont vécu ses disciples ont été des éléments positifs pour la suite. En quoi ça les a aidés pour la suite? En quoi ça a été quelque part positif, notamment lorsqu'on voit Pierre à la Pentecôte, lorsqu'on voit l'Église primitive, lorsqu'on voit toutes ces conversions? Pour eux, c'est un temps de transition. Ils sont quoi? Ils sont 12, moins Judas, ça fait 11. Ils sont 70, ils vont arriver à 3000 et bientôt ils vont être des milliers. Mais dans leur cœur, dans ce temps de pression, pressurisation, ça va être l'occasion pour eux d'être transformés intérieurement. Alors certains vont dire, mais comment on a le texte, puisqu'ils dormaient, ils sont pas. Comment ça se fait qu'on ait ce texte-là? Alors évidemment, alors peut-être qu'ils ont entendu une partie, ils se sont endormis après. Peut-être que quand Jésus est ressuscité, qu'il les a rencontrés, il leur a expliqué en détail. Je voudrais qu'on fasse une course d'orientation spirituelle. Vous êtes prêts? Vous aimez les courses d'orientation? Non? Bon, si elle est spirituelle, ça peut être intéressant. Et je voudrais que nous puissions nous orienter. On a dans une course d'orientation, on a la direction du sud, du nord, de l'est et de l'ouest. Et pour eux, ça a été très significatif parce que Pierre a besoin d'être libéré de son orgueil. Il est présomptueux, mais les autres aussi. Thomas, de son incrédulité, de tout ce qui est là. Et finalement, ils ont besoin de vivre quelque chose d'assez fort. Et dans ce temps, dans ces quelques heures, ils vont certainement se souvenir longtemps de l'intercession de Jésus. Parce que jusqu'à présent, ils ne l'avaient pas vu dans cet état. Ils avaient vu des sentiments de Jésus. Ils avaient vu un certain nombre de sentiments. Il était dans la joie, peut-être il était déçu, en colère des fois. Effectivement, on avait vu avec le temple. Mais ils ne l'ont jamais vu dans un temps de souffrance intense comme cela. Et j'ai envie de nous dire, si nous n'avons pas conscience de l'intensité et du prix que Jésus a payé pour notre péché, alors on ne va pas être conscient que Dieu nous appelle à être sérieux avec notre vie, avec notre péché, avec notre vie telle qu'on la vit aujourd'hui. Ils ont eu besoin de toucher du doigt le prix que Jésus a payé. J'imagine que Pierre, parce que Jésus s'est adressé à Pierre, lui qui est un leader, il s'est adressé à tout le monde. Vous n'avez pas pu rester une heure avec moi pour prier. Veillez et priez. La chair est faible. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et il est en train de leur montrer que malgré toute leur bonne volonté, eh bien, c'est insuffisant. Et vous savez, quand on s'approche de Dieu, à un moment donné, c'est important simplement de se souvenir, pas seulement se souvenir avec notre tête, mais de dire, mais le prix que Dieu a payé est un prix extrêmement, extrêmement élevé. Et il l'a payé pourquoi? Pour que nous puissions, nous, non seulement être réconciliés avec le Père, mais que nous puissions marcher dans une transformation, dans une transformation de gloire en gloire, comme nous dit la Bible, par l'Esprit. Vous imaginez Pierre à ce moment-là, entre le Pierre de maintenant et le Pierre de la Pentecôte? Il y a eu une transformation intérieure. Et puis, je pense qu'un autre élément qui est essentiel, ça a été le nord, donc le sud, souffrance intense de Christ, et le nord comme notre naturelle incapacité à être à la hauteur de la tâche. Ou notre nature charnelle. Quelque part, ce qu'ils ont vécu dans ce moment-là, ça a été un temps déterminant. Ils ont été comme testés. ça a été un temps de test en réalité. Vous savez, j'ai réfléchi à ce texte et je me suis dit, mais est-ce que Jésus n'aurait-il pas pu, au moment de la Sainte Cène, au moment de la Pâque, lorsqu'il leur annonce tous ces défis, c'est le temps des ténèbres, donc les ténèbres vont essayer de tout faire pour court-circuiter l'œuvre de Dieu. Et ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut simplement se souvenir que même si Dieu est au-dessus de tous les noms et qu'il a tout accompli pour nous, eh bien, il y a une part que nous avons à faire. Et notre part, c'est d'avoir cette confiance en lui, c'est d'avoir cette attitude de reconnaissance, de dire, mais finalement, dans mon cœur, et c'est un peu ce que l'on est en train de vivre en tant qu'Église, la réalité, c'est un temps de vérité par rapport à ce qu'il y a dans notre cœur. Les temps de pression, les temps de crise vont nous amener à voir la vérité dans notre cœur. Ça veut dire quoi? Lorsqu'il y a cette crise, lorsqu'il y a ce temps où ils risquent leur vie, à ce moment-là, c'est la vérité qui ressort. On peut penser que nous sommes comme ça et comme ça, jusqu'au moment où on vit un temps extrême. Et là, on voit la vérité. Là, on voit la réalité. Et finalement, le danger pour eux, c'était quoi? C'était de renier, comme l'a fait Pierre, c'est de s'enfuir, comme ils l'ont tous fait, Jean y compris. Jean, le disciple que Jésus aimait, celui qui était là près de Jésus, celui qui était proche de lui, il aurait pu se dire, bon, ça c'est vrai pour les autres, même s'il n'a pas dit comme Pierre, mais il a dû peut-être le penser intérieurement. Hein. Et au moment où tout le monde est parti, eh bien chacun a dû dire, mais finalement je ne suis pas celui que je pensais être. Et ça, ça a été un marqueur pour eux pour la suite. Un marqueur en disant, je peux avoir les meilleures intentions du monde, je peux venir à toutes les réunions de prière, je peux faire tout ce que je veux, mais la réalité c'est que si Dieu ne vient pas à mon secours, et si Dieu ne me transforme pas et ne continue pas à me transformer, alors je ne serai pas à la hauteur de la tâche que Dieu m'appelle à faire, à savoir être dans ce cœur à cœur avec lui et d'être des témoins, d'être des intercesseurs, de veiller avec l'Éternel. J'ai pensé que ce qu'il aurait pu faire, Jésus, c'est, ok, je vais les préserver, ses disciples. On va les mettre, écoutez, il aurait pu très bien leur dire, bon écoutez, ça va être très très risqué, il y a Satan, on va rencontrer Satan, hein. Parce que Satan était dans Judas et ils étaient là. Il dit, écoutez, je vais vous préserver. Je connais un abri anti-atomique. Allez-y jusqu'à ce que ça se calme. Mettez-vous à part. Et puis, quand je serai ressuscité, venez me voir. Il aurait pu faire ça. Hein. Nous, si on avait des enfants, s'il y a un danger, c'est ce qu'on aurait fait. Et là, on se dit, waouh, pourquoi Jésus a-t-il pris avec lui ses disciples en plein danger, en pleine crise? Et en plus, il lui-même s'est montré dans un jour qui était inhabituel. Vous savez pourquoi il l'a fait? Parce qu'il voulait qu'il soit prêt, il voulait qu'il soit transformé, il voulait qu'il soit marqué, qu'ils soient véritablement marqués par ce qu'ils ont vécu, même si c'était négatif, mais en réalité, ça a amené une transformation, sauf pour Judas. Sauf pour Judas. Et ça, ça a dû leur servir après, non seulement dans le temps de la Pentecôte, mais bien après. Et puis, eux, comme l'Est, mais comme entraînement, à pratiquer la volonté du Père. Dans ce temps de pression, on aurait pu dire, qu'est-ce qu'on aurait pu dire? Quand on lit ce texte, ou vous le relirez, il y a quand même des éléments qui sont quand même assez importants. C'est pour ça que ça a du sens hein, de lire cet épisode dans les différents évangiles, parce que vous avez des compléments. Et à un moment donné, il est dit que quand Jésus vient et qu'il les voit endormis, un des évangiles rajoute, ils sont endormis de tristesse. Vous avez lu ça déjà? Si ce n'est pas le cas, relisez ce texte. Autrement dit, pour eux, ça a été beaucoup. On ne va pas les blâmer. Non seulement ils ont entendu ces mauvaises annonces de Jésus, D'un seul coup, ils découvrent que parmi eux, il y a quelqu'un qui trahit, plus la pression des ténèbres, qui a dû être très très forte, très très forte. Et ça a dû être à un moment donné une telle, ils étaient dans un tel état que l'on peut comprendre qu'ils se soient endormis. Humainement, on peut le comprendre. On pourrait se dire, mais oui, ils ont été éprouvés, même presque au-delà de leur capacité. Et Jésus arrive et il va leur dire, vous n'avez pas pu veiller une heure avec moi. Il n'est pas dur là, Jésus ? Non ? Pour qu'ils touchent du doigt leurs limites. Et pour leur dire, oui, là, vous avez échoué. Mais par contre, vous êtes appelés à gagner après, lorsque je vais être ressuscité. Lorsque Christ ressuscite, il a tout accompli, il nous communique sa force. Non seulement il a pris le péché, il nous a réconciliés avec le Père, mais il nous donne également la puissance de son Saint-Esprit. Et il nous donne la capacité d'obéir à ce qu'il nous demande. Et ce qu'il nous demande, ce n'est pas simplement de prier, mais c'est de veiller. Qu'est-ce que ça veut dire? Et il est en train de marquer d'une nouvelle ADN le cœur de ses disciples qui vont devenir des apôtres et qui vont marquer et qui vont quelque part donner la ligne aussi pour l'Église primitive et pour la suite. La logique de Dieu n'est pas la nôtre et le regard de Dieu n'est pas le nôtre. C'est Paul qui dira dans Philippiens 2, il dit, j'espère dans le Seigneur Jésus vous envoyer bientôt Timothée afin d'être moi-même encouragé par les nouvelles que j'aurai de vous. Il s'adresse à l'église de Philippe, il pourrait s'adresser à la nôtre, à Bussigny. Et Paul dira, car je n'ai personne qui partage mes sentiments pour prendre vraiment à cœur votre situation. Tous, en effet, cherchent leurs propres intérêts et non ceux de Jésus-Christ. Entraînement à pratiquer la volonté de Dieu. Si je m'entraîne à pratiquer la volonté de Dieu, même quand ça fait mal, alors je vais être plus attentif à ce qui compte pour Dieu, à ce qui le touche, à ce qui a de l'intérêt pour lui. Et c'est toute l'histoire de l'intercession. On va intercéder tout à l'heure. On peut intercéder en prenant la liste. Oui, c'est bien. Mais ce qui est encore mieux, c'est de nous tenir dans la présence de Dieu et d'entendre les fardeaux de Dieu. Qu'est-ce qui a de l'importance pour lui ? Qu'est-ce qui le fait pleurer ? Pourquoi veut-il que nous intercédions ? Chacun cherche ses propres intérêts. Mais quand les disciples ont vu la détermination de Jésus, quel que soit le prix, à faire la volonté du Père, il l'a répété 3 fois. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Non pas ma volonté, mais ta volonté. Non pas ma volonté, mais ta volonté, Père. Et ça, c'est l'histoire de l'Église. C'est l'histoire des pères de ce pays qui ont voulu que dans la Constitution, dans le pacte, il y ait au nom du Dieu Tout-Puissant, je ne sais pas si ça a été rajouté, Amen. Pourquoi ? Parce que le cœur de Dieu, nous le croyons, c'est de sauver, c'est de libérer, c'est d'amener les valeurs du royaume de Dieu dans la société, c'est d'amener des valeurs, les valeurs du royaume de Dieu dans les relations. Et nous sommes appelés à veiller, pas seulement prier. Qu'est-ce que ça veut dire, veiller ? Dans quel domaine on peut veiller en tant que chrétien ? Il y a différents domaines, hein. Ça c'est des pistes à travailler. La Bible m'encourage, notamment c'est dans Marc 13, 31. Il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Donc si on vous dit que Jésus revient à telle date, voilà, vous vous renvoyez à Marc 13, 31. Une fois, quelqu'un avait écrit 10 thèses pour expliquer que Jésus devait revenir à telle date, 31 octobre, je ne sais plus de quelle année. Et puis, Jésus n'est pas revenu. Donc après, il a écrit une thèse, 10 thèses, pourquoi Jésus n'est pas revenu cette date-là. Ça aurait été plus simple de lire ce texte, hein, Marc 13, 31. Et quand je relisais ce texte, je me dis, mais en réalité, de se tenir prêt, de veiller, parce que Jésus revient. Et quand on dit ça, on sait que c'est biblique. Mais vous savez quoi ? J'ai lu ces textes-là, et d'un seul coup, j'étais dans la forêt, j'étais en train de faire un petit peu de prier, marcher, et d'un seul coup, je me suis dit, mais Seigneur, si tu revenais avant dimanche, ou si tu revenais ce dimanche, mais vraiment, hein, c'est pas une blague, hein, d'un seul coup, dans mon cœur, c'est comme si cette réalité de la parole, en disant, mais oui, Seigneur, on ne sait pas quel jour, et tu peux revenir. Et quand Jésus, quand Dieu nous appelle à veiller, c'est pas être dans la crainte, c'est d'être intelligent, c'est d'être alerte, c'est d'être des veilleurs, c'est d'être sensé, c'est de dire, oui, ça c'est la réalité de Dieu. Si Jésus revient aujourd'hui, est-ce que je suis prêt à le rencontrer ? Est-ce que j'ai tout fait ? On ne se met pas une pression, hein, Jésus nous aime, mais quand même, Dieu nous appelle à être dans les œuvres préparées d'avance. Et moi, franchement, je pose la question, je dis, mais Seigneur, est-ce que vraiment, est-ce que je n'ai pas laissé quelques œuvres que tu avais préparées d'avance ? Mais moi, je suis prêt, Seigneur. Et puis, je voudrais m'adresser à des amis ce matin, si vous n'avez pas cette certitude d'avoir la vie éternelle. Si vous n'avez, vous pouvez pas dire, mais si aujourd'hui Jésus revient, est-ce que je suis prêt à le rencontrer ? La bonne nouvelle, c'est que ce matin, c'est un jour du salut. Dieu a tout accompli, et il l'accomplit pour chacun, pour toutes les nations, pour chacun d'entre nous. La Bible dit que ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais c'est par le moyen de la foi. Il a payé le prix. Et le chemin est ouvert. Et si c'est le cas pour vous, priez dans votre cœur de dire, mais j'accepte cela. Et puis enfin, on peut veiller, hein, je vous laisse simplement dans quel domaine on peut veiller. Veiller, Éphésiens 6, 18, faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières, de supplications. On prie, là, dans ces moments, c'est bien de supplier, de prier, mais c'est Paul qui dira, faites en tout temps par l'Esprit. C'est encore mieux. Et il rajoutera, veillez à cela avec une entière persévérance. Et au passage, je vous renvoie aussi à cette parabole des 10 vierges, où certaines n'auront pas assez d'huile lorsque Jésus reviendra. Et je voudrais, quand je lisais ce texte, vous le relirez, on ne peut pas le développer ce matin, mais ça nous parle de veiller à ce que l'huile permet que la flamme reste allumée. L'huile nous parle du Saint-Esprit. Et la Bible nous appelle à dire à veiller pour que nous puissions rester, non seulement que la lumière de Christ continue de briller en nous et au travers de nous, mais surtout, ne méprisons pas le Saint-Esprit. Ne méprisons pas ce que Dieu nous donne en termes de force pour qu'on puisse aller jusqu'au bout. Et quelquefois, on a besoin de demander à Dieu un renouvellement du Saint-Esprit, renouvelé dans cette passion pour lui. Amen. Veillez à notre santé spirituelle, veillez aux attaques de l'ennemi. On peut veiller également à exercer l'autorité de Christ. Tout ça, c'est des points que l'on pourrait développer. Nous sommes appelés à veiller. Et je voudrais finir par l'ouest. Donc le sud, ça a été un repère pour les disciples. La souffrance intense de Christ, le nord, naturelle incapacité, on a besoin de le comprendre pour chercher la capacité auprès de Dieu. Entraînement à pratiquer la volonté de Dieu et haut, comme ouvrir le ciel. Qu'est-ce qui me fait dire ça dans ce texte ? Ben, ce texte-là, on peut le trouver dans Jean chapitre 18. Et dans Jean chapitre 18 et au verset 4, c'est au moment où les personnes viennent pour arrêter Jésus. Et au verset 4, Jésus, qui savait tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit, « Mais qui cherchez-vous ? » On est dans le jardin de Gethsémané. Ils lui répondirent, « Jésus de Nazareth. » Au moment où Jésus leur dit, « C'est moi. » Judas, celui qui le trahissait, était avec eux. Lorsque Jésus leur dit, « Mais c'est moi. » Ils reculèrent, ils sont tombés à terre. Il leur demanda à nouveau, « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus répondit, « Je vous ai dit que c'est moi. » Écoutez bien, si donc c'est moi que vous cherchez, laissez partir ceci. et il parlait de ses disciples. Il dit cela afin que s'accomplisse la parole qu'il avait prononcée. Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Dans la crise la plus profonde, même si Satan est présent, qu'il y a les ténèbres, qu'il y a toutes sortes de pressions, Christ est en commande, est aux commandes. Et vous avez remarqué au passage que autant il était éprouvé dans ses sentiments, mais quand il se lève, il est vraiment opérationnel. Et au moment où il dit « laissez-les partir », il est en contrôle. Il ouvre le ciel pour donner cette capacité à ses disciples de passer à travers ce problème. Ils auraient pu être tués avec Jésus, mais Dieu n'a pas permis. Lorsque Jésus est sur la terre et qu'il va être baptisé, la Bible me dit que le ciel s'ouvre. Il va ouvrir les yeux, il va ouvrir la compréhension de ses disciples pour qu'ils comprennent l'Écriture. Christ nous a ouvert la voie au Père pour la réconciliation. Amen. Christ, Jésus est mort, il est ressuscité, le chemin est ouvert. Et ça, c'est la bonne nouvelle qui a dû marquer ses disciples. Ils ont dû se souvenir, on a super galéré, on n'a pas été à la hauteur. Mais par contre, Jésus l'a assuré. Il nous a ouvert le ciel pour qu'on ne soit pas tué à ce moment-là. Et ce que je voudrais nous dire, alors que nous fermons nos yeux, s'il vous plaît, on va se tenir devant le Seigneur. Et dans ce temps, on a besoin d'avoir cette orientation divine, peut-être pour nous personnellement, en tant que famille, en tant qu'Église. Je voudrais nous dire, le ciel est ouvert. Même pour ses disciples, ils ont dû partir, ils ont dû courir, ils ont dû se dire, mais quelle déception, on arrive au bout et on n'est pas à la hauteur, quoi. Ils ont dû avoir un sentiment d'échec. Ils ont dû se dire, mais pourtant, quand ils ont ensuite vu le Christ ressuscité, ils ont dû repasser le film et ils se sont dit, mais le ciel est ouvert, c'est ça qu'il faut retenir. Jésus a parlé une parole d'autorité et on est passé à travers. Certains sont dans la maladie, certains sont dans le découragement, la dépression. Mais là, ce dont on a besoin de se rappeler à notre âme, c'est que le ciel est ouvert et que Christ, Jésus, que le Père est fidèle. Et ce que l'ennemi voudrait, c'est que nous baissions les bras comme Judas. Mais Dieu nous appelle à être comme les autres disciples, à dire, je vous donne rendez-vous en Galilée et là, vous allez voir que je suis ressuscité. Et c'est ce que le Seigneur veut faire ce matin. Il veut vous montrer réellement qu'il est vivant, même si vous ne le ressentez pas, même si vous avez été sous la pression. Christ est ressuscité. Amen. Gloire à son nom. Amen. On peut le déclarer. Laissez la place à Patrick. Merci Seigneur.